L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Chaque jour, ensemble, soyez encouragés dans votre foi par la prière, la parole et la présence de Dieu. Bonjour, nous sommes mercredi, je suis heureux de te retrouver. Comme chaque mercredi, on partage ensemble sur un livre de la Bible. Et tout à l'heure, après ce livre de la Bible, donc je vais prendre un petit peu plus de temps aujourd'hui. On va être sur l'évangile de Jean, beaucoup de choses intéressantes sur l'évangile de Jean. On va donc parler des pères et d'une certaine manière, qu'on en soit conscient ou pas, parce que parfois c'est très enfoui, nous cherchons tous un père. La bonne nouvelle, c'est que à travers Jésus-Christ, nous avons eu la connaissance du Père, notre Père céleste, et l'Esprit de Dieu en nous, eh bien, écrit Abba Père, c'est notre véritable Père, et on va parler de cette recherche de Père après la pensée du jour. Donc, le livre de Jean. Alors, Jean, c'est le disciple que Jésus aimait. Il écrit ça à la fin de sa vie, probablement dans les années 90, donc après Jésus-Christ. C'est le frère de Jacques, fils de Zébédée. Et il a été témoin oculaire, bien sûr, de toute l'histoire des 3 ans et demi de ministère de Jésus. Il est celui qui va se retrouver le seul parmi les 12 aussi proches de la croix. Et donc, le but de ce livre, il est déclaré à la fin de son évangile, hein, « Afin que vous croyant que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Donc, Jean ne va pas raconter vraiment la vie de Jésus, mais plutôt, comme les autres évangiles, il va révéler qui il est. Il va révéler qui il est. Alors, dans la structure du livre, ça commence par le verbe incarné, hein, il a été parmi les siens, etc. Au commencement était la parole était Dieu. Ensuite, on va avoir les premiers signes et ministères publics de Jésus. La dernière scène, le discours d'adieu, passion, crucifixion et la résurrection et les apparitions. Il y a plusieurs thèmes majeurs dans cet évangile. Bien sûr, Jésus, le Fils de Dieu, la vie éternelle, l'amour, le Saint-Esprit, les signes et la lumière et les ténèbres. Alors, particularité de l'évangile de Jean, c'est que contrairement aux autres évangiles, ce qu'on appelle les synoptiques, hein, Jean n'a aucune parabole classique comme le semeur, le fils prodigue. Il n'y a pas de délivrance dans le livre de Jean, pas de récit de la naissance, pas de généalogie, pas de transfiguration, pas d'agonie à Gethsémané, pas d'institution de la scène, pas de parabole du royaume et pas de discours eschatologique. Et par contre, on va retrouver le prologue donc dont on a parlé, en commencement était la parole, unique, les noces de Cana, le dialogue avec Nicodème, avec la Samaritaine, sur le pain de vie, la controverse, hein, avant qu'Abraham fût je suis, la guérison de l'aveugle-né, la résurrection de Lazare, etc. Pas mal de choses qui sont uniques à son évangile. Il y a une chronologie aussi qui est différente par rapport aux autres dans Jean. Le ministère, on voit bien que c'est un ministère de 3 ans, mais dans les autres évangiles, on a l'impression que ça se passe en une seule année. Jean fait bien la différence. Chez Jean, le ministère est centré sur Jérusalem avec 7 voyages. Et dans les synoptiques, le ministère est centré en Galilée, un seul voyage final à Jérusalem. Donc Jean va être vraiment plus sur Jérusalem. D'ailleurs, il parlera beaucoup des Juifs et de manière assez négative, plus de 70 fois. Contrairement, il va utiliser un terme assez péjoratif sur les Juifs, contrairement aux autres évangiles qui vont l'utiliser que quelques fois seulement. Et chez Jean, la purification du temple se passe au début de son évangile et dans les autres, c'est à la fin. Alors, il y a 7 signes dans l'évangile de Jean, l'eau changée en vin, etc., etc. Il y a aussi 7 « je suis ». Ça, c'est très intéressant puisqu'on voit que Jean nous révèle qui est Jésus. Je te cite les « je suis ». Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. Il y a 7 « je suis » dans l'évangile de Jean, c'est fort. Et il y a plusieurs versets clés. Alors, je vais les lire pour toi. Au commencement était la parole. On va les afficher. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 3,16 qu'on connaît par cœur, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Également, Jean 8,12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 10,10 qu'on connaît bien aussi. Le voleur, eh bien, il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Une grande théologie, particulièrement bien sûr chez les protestants et évangéliques. Jean chapitre 20 verset 31, je l'ai lu pour toi tout à l'heure, donc le but de cet évangile. Alors, le style de Jean, il est aussi particulier. Il va avoir des dialogues qui sont théologiques sur la nouvelle naissance avec Nicodème, sur l'eau vive, l'adoration en esprit, en vérité avec les Samaritaines, le paralytique, on va avoir l'autorité du Fils. Et il utilise ce qu'est appelé la technique du malentendu. Jean va utiliser fréquemment les incompréhensions des auditeurs ou de ceux qui sont là, et donc pour apporter quelque chose. Donc Nicodème, par exemple, la nouvelle naissance, il comprend pas, mais je vais retourner dans le sein de ma mère. La Samaritaine, elle pense que c'est de l'eau vive, de la vraie eau vive. Les foules, manger ma chair et boire mon sang, ils ne le comprennent pas. Quand il dit aux Juifs, détruisez ce temple, eh bien, et ils ont l'impression que c'est vraiment le temple là qui est là. Et donc Jean va utiliser plusieurs fois ça. Il va aussi utiliser ce qu'on appelle l'ironie dramatique. Donc le lecteur, il sait la vérité, mais les autres ne le savent pas. Caïphe, par exemple, qui va prophétiser sans le savoir. Et il y a d'autres choses comme ça dans cet évangile. Et il y a dans cet évangile l'opposition, des oppositions symboliques constantes. La lumière et les ténèbres, la vie et la mort, la vérité et le mensonge, ceux qui sont d'en haut et en bas, l'esprit et la chair, la liberté et l'esclavage, croire, ne pas croire, donc très intéressant, plusieurs symboles majeurs aussi, bien l'eau de vie, hein, le pain de vie, la lumière, la vigne, le berger, les brebis, la porte. Un évangile assez simple, hein, qui est écrit avec moins de mots d'ailleurs que les autres évangiles, quelque chose de beaucoup plus facile aussi à lire. Et la divinité de Jésus, alors là, on la voit dans l'évangile vraiment plus que partout ailleurs, préexistence éternelle, l'égalité avec le Père, les titres divins, il est Dieu Jésus, il est le Logos, le Fils unique, Seigneur et Dieu, le Je suis dont on a parlé, il est l'agneau de Dieu et tous les attributs divins, il est créateur, il est la vie en lui-même, il est omniscient, il est juge universel. Et en réponse à ces paroles, eh bien, la lapidation, donc ils cherchent à le lapider pour blasphème, et il lui dit non, tu n'es qu'un homme et tu n'es pas Dieu et tu te fais Dieu. Et donc plusieurs passages clés qui sont là, le Saint-Esprit va être bien présenté, particulièrement à la fin de son évangile, le Saint-Esprit comme paraclet pour enseigner, pour rappeler, pour témoigner, pour convaincre, pour conduire dans la vérité, pour annoncer l'avenir et pour glorifier Jésus. Magnifique présentation du Saint-Esprit, les critères du discipelat. Dans l'évangile de Jean, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, parce que l'amour revient constamment dans cet évangile, et le fait de demeurer dans le Seigneur, ça revient également constamment. Et il y a 7 témoins dans cet évangile. Il y a Jean-Baptiste, il y a les œuvres du Seigneur qui sont des témoins, il y a le Père, il y a les Écritures, il y a la Samaritaine, il y a les disciples, il y a le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui rend témoignage de Jésus. Alors nous allons, alors qu'on va entrer dans cet encouragement du jour, on va parler de la recherche du Père. Nous allons déclarer, proclamer ce vieux chant que je chantais alors que j'avais même 12 ans, j'avais 13 ans, 14 ans, et tous les ans on le chantait, et pour pas dire tous les mois, en tout cas, on le chantait régulièrement, Tendre Père. On va chanter ensemble.
Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler.
Oui, dis-lui, je t'offre ma vie, je chante ta gloire.
Je t'offre ma vie, je chante ta gloire.
Tendre Père,
tendre Père, j'aime te contempler.
Dis-le avec nous, tendre Père.
Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler.
Dis-lui, je t'offre ma vie.
Je t'offre.
Je chante ta gloire.
Chante ta gloire, tendre Père, j'aime te contempler.
Tendre Père,
tendre Père, j'aime te contempler. chante ta gloire, tendre Père, j'aime te
la révélation du Père. Révèle-toi à moi, Père. Révèle-toi à moi.
Je t'offre ma vie.
Montre-toi à moi.
Je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler.
Alléluia. Alors je l'ai dit d'une manière ou d'une autre, tous, nous cherchons un Père. Tous. Est-ce que tu sais que tu cherches un Père? Alors, comme l'a dit un chant, une expression, on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas là où on est, on ne choisit pas le Père ou la Mère qu'on a eu. Quand on a eu un bon Père, et quand on a un bon Père, que le Père est présent, il a toujours été présent, ça a vraiment été un très bon Père. On n'a pas forcément besoin de le chercher, parce qu'il est là. Il est là et peut-être même on ne réalise pas qu'est-ce que ça ferait de ne pas avoir de Père. Comment vivrait ça, le fait de ne pas avoir un Père? Parce qu'en fait, on l'a toujours vécu. Quand on a toujours vécu quelque chose, c'est toujours difficile de se mettre à la place des autres. C'est difficile de même parfois comprendre les autres. Des fois, il y a des couples qui se mettent ensemble et la femme ne comprend pas l'homme parce qu'en fait, elle n'a pas eu du tout la même éducation, la même vie. Et même si peut-être elle aimait dans la même région, mais la maison, ça n'avait rien à voir. Et vice-versa, l'homme ne peut pas comprendre pas sa femme parce que lui, mais il comprend pas. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Et pourquoi tu fais ça? Et pourquoi chaque fois je dis ça, ça crée ça chez toi? Alors, on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas eu la même enfance. Et pour certains, ils ont vécu une forme de bénédiction, particulièrement bien sûr dans les familles chrétiennes. Et pour d'autres, ça a été beaucoup plus difficile. Et si ton père n'a pas été présent comme il aurait dû l'être, et même si aujourd'hui, peut-être tu as eu un bon père, mais aujourd'hui il n'est plus là, parce que peut-être il est ailleurs, peut-être il t'a abandonné, peut-être il t'a rejeté, peut-être il est mort. Il y a quelque chose en nous qui cherche la présence d'un père. J'aimerais qu'on puisse lire dans Juges chapitre 11, et on va lire... tu peux lire, Marie, peut-être je te couperai un moment.
Jephthé, le Galaïte, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galaad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas de la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Amnon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amnon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amnon. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi ? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? »
Amen. Alors voilà un passage vraiment intéressant sur Jephthé. On en a parlé déjà plusieurs fois. Et on voit dans ce passage, donc, on a déjà parlé de ce qu'il a pu ressentir peut-être comme un abandon ou peut-être comme un rejet. En tout cas, le père n'est pas présent dans le texte, et je crois que c'était pas seulement dans le texte, mais également dans sa vie. Ça a créé chez lui des façons de faire, ça a créé un état d'esprit. C'est comme même une sorte de forme de malédiction qui est là et qui va même amener Jephthé à offrir à sa fille unique en holocauste à Dieu, quelque chose que Dieu n'avait jamais demandé. Il va tuer sa propre fille, sa fille unique, qui était venue auprès de lui avec des danses, avec des gens, et lui, il va éteindre sa joie en la tuant. C'est catastrophique, vraiment terrible comme histoire. Et donc, Jephthé est rejeté par ses frères, c'est comme ses demi-frères, ils sont pas la même mère. Et Jephthé, il va partir de là, il va s'enfuir, parce que ça devient peut-être même dangereux pour lui. Et il se retrouve avec, la Bible dit, des vauriens. Alors, il y a plusieurs traductions, hein, des vauriens ou des gens de rien. C'était, voilà, des gens de la rue, on va dire, des gens avec des problèmes. Et il se retrouve là et ça devient ses amis. Ça devient ses amis. Ils commencent à faire donc des excursions de guerre. Donc, ils font des guerres. Peut-être ils trouvent un homme dans la rue ou quelque part et ils vont tuer des personnes, des ennemis, etc. Et prendre leurs biens, prendre leurs trésors. Il vient un peu comme un bandit, un peu comme un hors-la-loi. C'est un peu Robin des Bois. Hein. Et tout ça, ça vient d'un contexte. C'est parce que le père n'était pas là, on l'a dit. Et je pense que pour Jephté, c'est dans son cœur, c'est en faisant ces choses, il y avait un manque. Il recherchait un père. Il recherchait un père. Je suis persuadé que le père l'a manqué, que le père lui a manqué. Il aurait voulu avoir un père. Il aurait voulu avoir un modèle. Il aurait voulu avoir quelqu'un qui le prenne, qui le conseille, qui l'encourage, et qui dit « Ah, je suis fier de toi ». Quelqu'un qui lui met une tape sur l'épaule. Allez, vas-y, mon fils. Vas-y, tu peux réussir. Mais il y avait personne. Il y avait personne. Et finalement, au bout d'un certain temps, certainement en entendant parler de ses succès, de ses victoires, eh bien, les gens vont revenir à lui. Les gens de, peut-être pas ses frères, mais les gens du même village, et vont lui demander de pouvoir l'aider, de pouvoir les aider à aller faire la guerre à ses ennemis. Et qu'est-ce que va dire Jephté? C'est intéressant. Il va dire, OK, j'y vais, mais seulement si je suis votre chef. Et vraiment, il se renseigne bien. Est-ce que vraiment vous allez faire de moi votre chef? En fait, il veut être un père. Il cherche à être un père. Le père qu'il n'a pas eu, eh bien, il veut l'être. Et Jephté va devenir comme un père, un juge. Il va être là et Dieu va l'utiliser. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est que même si on n'a pas eu le père, même si on a eu des manques, si on a eu des carences, Dieu peut transformer le mal en bien et Dieu peut nous donner d'être et de devenir ce que les autres n'ont pas pu être dans notre vie. Alors la bonne nouvelle, c'est que quand tu appartiens à Jésus-Christ, la malédiction est coupée et tu peux prendre autorité, bien sûr, contre des choses qui essaient de revenir dans ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si ton père n'était pas là pour toi, toi, alors que tu vas être papa, ou alors que tu es papa, tu pourrais être là pour tes enfants. Si peut-être ta maman n'était pas là pour toi, et t'as pas montré même comment c'était d'être une mère, et ce que c'était d'être une mère, et comment aimer, la bonne nouvelle, c'est qu'avec l'Esprit de Dieu en toi, le Père va te montrer comment être une bonne maman, comment être là pour tes enfants, comment être là pour ta fille, comment être là pour ton garçon. Et par l'Esprit de Dieu en toi, il change les choses. Et tu peux devenir la meilleure des mères et le meilleur des papas, même si tu n'as pas vu, même si tu n'as pas eu sous tes yeux et que tu n'as pas vécu et expérimenté, eh bien, ce que c'était d'avoir un père ou d'une mère. Dieu veut faire de toi un père. Dieu veut faire de toi une mère. Et Jephté va devenir un chef et c'est dans son cœur. Et voilà, c'est sûr qu'il a, il vit cette, quand on va le voir, il est encore dans cette blessure. Vous m'avez laissé et il dit quoi? Il dit, vous avez eu de la haine pour moi et vous m'avez chassé de la maison de mon père. La maison de mon père. Alors certainement il y avait chez lui des vagues souvenirs de son père. Peut-être il l'a connu quelques années, peut-être juste quand il était enfant, mais ça reste un vague souvenir. Mais il appelle quand même la maison de mon père. Pour lui c'est la maison, mais c'est la maison de mon père. On est tous d'une certaine manière liés par nos parents. Que ce soit par notre corps, parce qu'on ressemble quand même. Même si on dit « Ah non, moi je ne ressemble pas à mes parents », si ton père, si tes deux parents étaient asiatiques, eh bien certainement, tu as peut-être les cheveux noirs et tu as les yeux bridés comme Annabelle. Donc, si tes parents étaient éthiopiens ou camerounais, qu'ils étaient donc tous les noirs, tu es probablement noir également. Je ne pense pas que tu es sorti blanc, roux, avec les yeux bleus. Donc, ce soit dans ton corps, que ce soit dans ton âme, si tu as certainement vécu avec eux aussi, mais aussi spirituellement, il y a des choses que tu fais qui peuvent lui ou leur ressembler. Mais encore, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, à la croix et en nous faisant naître de nouveau, nous sommes devenus ses enfants. Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 35, « Le Père aime le Fils et a tout remis dans ses mains. » Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. On aurait voulu avoir un Père comme ça. Un Père qui nous aimait et un Père qui nous faisait confiance. Le Père a tout remis dans les mains de Jésus. Il lui a fait confiance. Si on n'a pas expérimenté ça, si personne n'était là pour avoir confiance en nous, personne n'était là pour être fier de nous, on va le chercher quelque part. On va le chercher quelque part. C'est peut-être avec des amis, comme Jephté l'a fait, il s'est trouvé des dévoriens. Et c'était des personnes qui commençaient à lui faire confiance. C'est des personnes qui sont devenues certainement des amis autour de lui et ils partaient ensemble et il a essayé d'être ce qu'on n'a pas réussi à être pour lui. Je connais quelqu'un comme ça, il a pas eu son père avec lui et tu sens il veut être un père. Il cherche absolument à être un père. Mais dans cette recherche d'être un père, il recherche aussi un père. Je connais beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, là, en 2025, 2026 qui vient, beaucoup de personnes qui cherchent un père. Ils ont grandi, ils sont adultes et jeunes adultes, et cette recherche du père est bien présente dans leur vie. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 22, le Seigneur dit, « En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur, Éliakim, je le revêtirai de ta tunique, de ton écharpe, je mettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Et je l'enfoncerai comme un piquet dans un lieu sûr. Il sera un siège de gloire pour sa famille. » Dieu veut t'établir comme un père. Comme un père. Et cette recherche du Père qu'on a, en fait, on cherche un modèle. Je suis sûr que quand Timothée était pas orphelin, mais quand il a rencontré Paul, il a rencontré un Père. Parce qu'il arrive aussi des fois où nos parents sont pas chrétiens, où le Père ne veut rien entendre du Seigneur. Et en fait, il y a un autre Père qui se présente à nous, qui est un modèle. Alors on l'appellera peut-être pas papa, bien sûr, mais c'est comme une figure paternelle. On va chercher cette figure paternelle. Et c'est sain. Quand les choses sont faites de manière saine, bien sûr. Quand cette figure est saine, c'est sain et c'est bon. Et je prie que Dieu puisse te donner si tu en as besoin, des figures paternelles ou maternelles. C'est pour ça que Paul dira à Timothée, il encouragera cet enseignement, donc, que les femmes âgées puissent apprendre aux plus jeunes à être des mamans, à être des bonnes épouses. S'il doit avoir une transmission, il doit avoir des modèles paternels ou maternels. Il y a quelque chose en nous qui cherche ça. Spirituellement, Dieu nous a accrochés à lui. Mais aussi sur la terre ici, il veut nous donner des personnes qui sont des modèles. Alors j'ai déjà fait une série sur les pères spirituels et j'ai parlé de ces excès parce qu'il y a vraiment des excès. Mais aussi cette recherche dans nos cœurs d'avoir un regard paternel. Quelqu'un qui puisse nous considérer, quelqu'un qui puisse nous aimer, quelqu'un qui puisse nous accompagner, quelqu'un qui puisse nous amener plus loin. Le Seigneur, il dit ici, en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur, je le revêtirai de ta tunique. Je le ceindrai de ton écharpe. Parce que parfois, le papa qui avait l'écharpe, qui avait la tunique, n'a pas fait son rôle. Il n'a pas rempli son rôle. Et cette tunique et cette écharpe, elle est donnée à quelqu'un d'autre, qui devient comme un père pour toi. Combien de personnes à la maison, c'était difficile, c'était compliqué. Ils n'ont pas eu les mots, ils n'ont pas entendu ce qu'ils devaient entendre. Et ils vont le chercher chez quelqu'un d'autre. Parfois même, il va avoir un dérèglement, par exemple, dans les couples, où l'homme va devenir le père, ou même la femme va devenir maman. Et il faut bien faire attention aussi à ne pas chercher chez l'épouse ou chez l'époux, le futur épouse et époux, le père ou la mère qu'on n'a pas eu. Parce que ton épouse, c'est pas ta mère, et ton épouse, c'est pas ton père. Mais Dieu peut te donner et répondre à cet élan de cœur en mettant, probablement dans l'église locale, souvent c'est là, ou peut-être même quelqu'un avec qui tu n'auras peut-être pas l'occasion de discuter, mais qui sera pour toi comme un repère, toutefois, par l'enseignement, par l'encouragement, qui sera pour toi comme une présence paternelle ou maternelle. Sur ces paroles, je veux prier, vrai, beaucoup de choses à dire, et chaque cas est particulier. Mais Seigneur, nous nous présentons devant toi, et je veux, Seigneur, me mettre à genoux devant toi qui est le Père de toutes les familles de la terre. Je prie, Seigneur, pour ceux qui recherchent en ce moment même un père ou une mère. Il y en a, c'est enfoui en eux, ils veulent pas que ça ressorte parce que ça crée, ça amène des souffrances et comme un souvenir ou des souvenirs de, de ce que papa, maman n'étaient pas là. Mais il y a des personnes, Seigneur, tu veux leur donner des... comme une présence paternelle. Je prie pour ces personnes qui, dans l'Église, il y a des couples plus âgés que tu mets sur leur chemin et je prie qu'ils puissent voir. Je prie peut-être même pour cette sœur qui est célibataire, qui est maintenant adulte et il y a ce couple-là, plus âgé, tu... et peut-être il ferme son cœur ou... Mais je prie, Seigneur, que là où il y a des Paul pour Timothée, là où il y a des Élie pour Élisée, là, Seigneur, où il y a des Moïse pour Josué, je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de pouvoir attirer, de pouvoir unir, qu'il y ait une communion, qu'il y ait une attraction, Seigneur, parce que tu appelles des hommes et des femmes à se lever comme des pères et des mères. Je prie, Père, que plusieurs se lèvent. Comme tu as dit de ton serviteur, Eliakim, qui se lèverait comme un père. Je prie pour ceux qui, tout en étant à la recherche d'un père et d'une mère, parce qu'ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas vu, ils n'ont pas été nourris comme il aurait fallu, qu'ils puissent devenir des pères et des mères pour les autres. Et je prie, Père, que ce ne soit pas en réaction et que ce ne soit pas quelque chose d'impur et de mauvais. Je prie d'abord que leur cœur soit guéri, restauré. Je prie pour la révélation du Père. Combien d'hommes et de femmes, Seigneur, parmi tes enfants ne ressentent pas ton amour, n'acceptent pas ton amour, parce que leur père à eux les a pas aimés, les a rejetés. Je prie pour ces personnes maintenant, Seigneur. Je prie que leur cœur s'ouvre. Mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, si c'est toi, dis-lui, Père, Père, révèle-toi à moi. Montre-moi. Montre-moi cet amour de Père. Manifeste-toi à moi. Ne deviens pas seulement, sois pas seulement mon Dieu, mais mon Père. Deviens mon Papa. Seigneur, merci. Père, c'est une semaine où tu viens en profondeur, c'est tranquille, c'est doux. Tu viens asseoir des choses profondes dans les cœurs et au-delà de mes mots, Seigneur. Tu viens, tu changes, tu parles. Seigneur Jésus, je te remercie. Alléluia. Il y a un exercice qui se fait parfois. C'est comme un triangle. Il y a toi, il y a le Père, il y a la Mère. Et en fait, il y a une flèche de toi vers le Père. De quelle manière tu as aimé le Père, ton Père? De quelle manière tu as aimé ta Mère? De quelle manière les parents se sont aimés? De quelle manière aussi tu t'es senti aimé? De quelle manière on t'a aimé? Et parfois, il y a des grands trous. En fait, je vois pas en quoi ma Mère m'a aimé, mon Père m'a aimé. Peut-être même, je vois pas ce que j'aurais pu faire pour aimer mon père ou ma mère. Là où il y a eu des grands trous dans ce triangle, je prie que le Seigneur vienne combler, remplir ces trous. Et que tu puisses ressentir l'amour du Père et être en capacité d'aimer. D'aimer les autres et de manifester ton amour envers ton épouse, ton époux, envers tes enfants, envers les gens autour de toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que même si on a été rejeté, méprisé, abandonné, on peut aimer. On peut prendre soin. on peut faire attention. On peut honorer, célébrer. On peut se tenir pour les autres. Je te remercie, Seigneur Jésus, de l'œuvre que tu as accomplie dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous rendant capables d'aimer. Seigneur, merci pour des leaders aussi qui se lèvent et qui deviennent pour nous comme des pères et des mères. Et il suffit de quelqu'un, peut-être pendant un temps même, qui sera sur notre chemin comme un père. Seigneur, je prie que tu puisses faire de nous demain des pères, des mères, pour des personnes qui ont besoin d'avoir ce père ou cette mère. Je te glorifie, merci Seigneur. Alléluia.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions et envoyez votre témoignage sur l'application Prière Inspirée et sur emcitv.com/je-témoigne.